après sa victoire 1-0 face à Saint-Étienne.
Radio Notre-Dame, le grand témoin.
63 000 vols annulés, des millions de passagers bloqués, des centaines de millions d'euros perdus, peut-être des milliards. La plus grande panne de l'histoire de l'aviation civile, plus importante et plus coûteuse que le 11 septembre pour les compagnies aériennes, c'est bien sûr l'éruption du volcan islandais dont il s'agit, avec une vie politique et diplomatique perturbée, des chefs d'État bloqués, empêchés de revenir, etc. Bref, Xavier Guillou, vous qui êtes consultant en gestion de crise et prévention des risques, qui êtes un expert donc, mais aussi surtout un praticien de ces situations difficiles, est-ce que on est là devant une illustration de la théorie du chaos ?
Non, je pense que nous sommes devant un coup du sort, hein, comme disaient les anciens. Je pense que les désastres naturels font partie de l'ordre des choses. Alors c'est vrai que l'Europe a été très touchée par cet événement-là. Il faut se rappeler quand même qu'il y a quelques semaines, nous avons eu la même chose sur le territoire national, en l'occurrence du côté des Antilles. Le volcan à Montserrat a craché le même niveau de cendres volcaniques et a empêché l'ensemble des Antillais de quitter leurs îles pendant plusieurs jours, et ça n'a inquiété personne du côté de la métropole.
Et on en a beaucoup moins parlé.
Non, là c'est vraiment le ce qu'on appelle le coup du sort, mais le coup du sort il n'est pas c'est pas impossible de le on peut pas le prédire en termes de prédictabilité, hein, en termes de modèles mathématiques comme le font la plupart des experts aujourd'hui. Mais on peut quand même y penser. Parce que je veux dire, quand vous écoutez les spécialistes de géomorphologie, qui travaillent sur les séismes, qui travaillent sur le potentiel de grands désastres naturels, on sait où se situent les plaques, à peu près grosso modo autour de l'Europe. On connaît les chaînes volcaniques. On sait où sont les risques de séisme. Moi, je peux vous dire que, par exemple, on a un risque énorme, une occurrence de risque énorme sur la plaque méditerranéenne, de voir un jour quelque chose de massif se produire du côté de Marseille ou de Nice. On peut même avoir une destruction d'une grande partie de ce littoral et perdre, par exemple, l'aéroport de Nice. Bon, ça fait partie des choses qui sont connues, répertoriées et autres. Alors après, on a envie de les voir, on n'a pas envie de les voir. Hein. Ça, c'est une autre paire de manches.
Alors, quand même, la dernière éruption de ce volcan avait duré plus d'un an. Est-ce que finalement, vous estimez qu'on a pris la bonne décision lorsqu'on a décidé de clouer les avions au sol et en prenant compte notamment de cette incertitude de la densité de poussière qu'un avion pouvait supporter ?
Alors, tout ça, faut bien reprendre le problème à la base. Tout ça est lié à, alors on pourrait dire, à un principe de prudence au départ. Qui est édicté par un certain nombre de normes que les motoristes ont imposées au monde aérien et qui a été à l'origine de certaines décisions qui ont été prises notamment par Eurocontrol et par les organes qui assurent la maîtrise du ciel. Alors, je pense que pendant les premières heures, il n'y avait pas à discuter. On avait une éruption qui était violente. On avait donc un dégagement de cendres qui était important. Il y avait une occurrence de risque qui était avérée. Alors après, c'est dans le cheminement, je dirais, de cette affaire que les choses se sont mises en autoblocage. Comme souvent, du reste, hein. On a eu la même chose pour la grippe A, on a eu la même chose pour d'autres crises du même ordre. À savoir que les experts ont pris le dessus sur les praticiens, sur les décideurs, et ont imposé quasiment idéologiquement du principe de prudence, je dirais, le principe de précaution à l'extrême.
Quand vous dites les experts, ça correspond à quel type de...
Je veux dire, ce sont tous ceux qui sont, en l'occurrence là, dans un certain nombre de bureaux et qui gèrent ces normes et sont les gardiens un petit peu du temple pour à la fois protéger le décideur, protéger le citoyen, enfin protéger tout le monde et se protéger d'abord eux-mêmes, hein, parce que ils ont très très peur de la judiciarisation aujourd'hui au moindre incident, et derrière les commissions d'experts ou les commissions de contrôle. Vous savez, la succession des accusations qui remontent à eux parce qu'ils n'auraient pas pris ou ils n'auraient pas suggéré les bonnes décisions. En l'occurrence, le week-end a été assez décisif en la matière. Les pilotes ont à plusieurs reprises fait part de leur suggestion d'aller dans les airs et de vérifier quand même cette granularité. Et puis surtout, d'avoir une évaluation beaucoup plus fine entre ce que j'appelle l'amplitude du phénomène et la gravité du phénomène. Hein. Ça fait un petit peu comme pour l'histoire de la grippe A. Tout le monde s'est mis tout de suite sur le niveau d'amplitude qui avait été défini par l'OMS, hein, niveau 5, par niveau 5B. Oui, mais ça c'est sur le niveau d'amplitude, c'est-à-dire en fait l'amplitude, ça veut dire que tous les pays étaient concernés par le virus. Ça ne veut pas dire forcément que c'était grave. Bon, là c'est la même chose. Enfin, l'ensemble de l'Europe était quasiment couverte par ce nuage. Est-ce que le taux de couverture de l'Europe signifie un niveau de gravité qui justifie de bloquer tous les avions sur les tarmacs et de mettre moi j'ai calculé à un moment donné, enfin lundi matin on était à 7 millions de personnes qui étaient bloquées dans le monde. 7 millions de personnes pour se rendre compte une grande crise humanitaire. Ce qu'on a eu au Soudan, ce qu'on a eu en ex-Yougoslavie, enfin, ce qu'on a à peu près partout. Même quand il y a eu Katrina, on a eu entre 2 et 3 millions de personnes bloquées, déplacées, enfin, qui sont concernées. 7 millions de passagers, là, qui sont bloqués en 48 heures par des décisions que l'on n'arrive pas à faire évoluer ou que l'on n'arrive pas à amender, quoi. Alors, il a fallu que les pilotes montent le ton, il a fallu que les présidents des compagnies aérienne monte-t-on pour que le président d'Air France, le président d'IATA, qui représente quand même 35 compagnies, dise maintenant ça suffit, il faudrait peut-être se remuer et revoir la question parce qu'autrement on va tous droit dans le mur. Moi j'ai trouvé ça plutôt assez sympathique et assez rassurant, hein, que des décideurs et des praticiens montent à l'assaut et commencent à résister par rapport, si vous voulez, à ce terrorisme de l'expertise, où on part du principe que si on n'a pas 100% de l'information qui a été vérifiée, certifiée, etc., on peut rien faire. Non, il faut quand même raison se garder.
Alors Xavier Guillou, avant d'aller plus loin, le portrait, puisque c'est la tradition de cette émission, l'intelligence économique et stratégique, la gestion de crise, vos deux domaines de prédilection, un intérêt pour le monde et ses mouvements qui est né dès votre enfance, une enfance jalonnée de voyages, c'est ainsi que démarre votre portrait avec Marion Duchesne.
L'Allemagne, l'Afrique, Madagascar à la fin des années 50 et au début des années 60. Avec mes parents entrepreneurs, j'ai vécu pleinement la période de la décolonisation, toutes les mutations de l'époque. Nous étions aux avant-postes de l'histoire, raconte Xavier Guillot. L'école normale sup, des études de lettres et de sciences humaines, il finit par se spécialiser dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Le groupe Hachette, en 1989, Schneider Electric, en 97, Xavier Guillot multiplie les expériences dans le monde de l'entreprise, mais pas seulement. Officier de réserve, il est capitaine de vaisseau. L'homme a pratiqué le terrain durant 20 ans, faisant face à différentes crises militaires et stratégiques, les Balkans, Beyrouth, l'Argentine ou encore l'Afghanistan. Entre 1982 et 1988, il est responsable de l'intelligence économique et de la gestion des crises au sein des services secrets français. Imagination et audace, deux mots-clés pour Xavier Guillot, qui ose, gagne, répète-t-il, il n'est pas question de s'enfermer dans la fatalité du désespoir. Un optimisme et une expérience qu'il fait valoir auprès de ses étudiants, à l'université comme dans les grandes écoles, je vais chercher au fond de chacun ce qu'il y a de meilleur. L'essentiel pour moi, c'est de faire émerger le talent des jeunes. Côté actu, la tempête Cynthia, le nuage volcanique islandais, nous sommes dans une société qui a progressivement cultivé la notion risque, analyse Xavier Guillot. On a tendance à se défausser sur le collectif, dans une culture de l'instantané et de l'hypermédiatisation. Personne n'accepte la moindre défaillance. Xavier Guillot, lui, ne perd jamais de vue sa foi chrétienne et son espérance. Faire acte de foi, dit-il, c'est admettre avec humilité que nous nous situons quelque part entre le connu et l'inconnu, que nous ne maîtrisons pas tout.
Alors un mot, Xavier Guillot, avant de revenir à l'analyse de cette crise du nuage liée au nuage volcanique, un mot sur, puisque Marion Duchesne citait donc votre foi chrétienne, sur la crise liée aux abus sexuels dans l'Église d'une partie du clergé. Quelle analyse, d'un point de vue de la gestion de crise, justement, est-ce que vous pouvez en faire ?
Ah, c'est une vraie crise, hein. Je pense que le Vatican ne peut pas occulter la problématique. Bon, c'est une crise de société. Et c'est l'introduction, si vous voulez, valider la pédophilie, c'est valider la barbarie, une barbarie molle, hein, c'est comme une crise molle qui s'installe dans notre quotidien et qui va frapper les plus faibles, hein, notamment les enfants. Donc c'est quelque chose de totalement inadmissible. Et alors c'est vrai que l'acharnement médiatique, j'irais même politico-médiatique, parce que On a l'impression que le monde politique donne un quitus à certains médias pour pouvoir déporter sur le pape et sur le Vatican et sur l'Église la responsabilité de ces déviances qui sont en fait sous-jacentes au mode de fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui. Et je pense qu'en plus de ça, le monde politico-médiatique l'incarne plus que l'institution religieuse hein, en tant que telle. Mais l'institution religieuse mettant très très haut les principes de morale et d'éthique, c'est plus facile de la rendre quelque part plus responsable que le pouvoir temporel.
Elle se doit d'être exemplaire.
Elle se doit d'être exemplaire. Maintenant, le pouvoir temporel devrait l'être aussi, parce que quand je regarde les tribulations de certains de nos politiques ou de certains de nos leaders des médias, je pense qu'ils feraient mieux d'être beaucoup plus modestes sur le ton qu'ils utilisent vis-à-vis de Benoît XVI.
L'Église sert un peu de bouc émissaire dans cette
affaire. C'est-à-dire que dans en la matière, elle sert complètement de bouc émissaire, et dans les crises, la notion de bouc émissaire est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans nos cultures occidentales. Mais même beaucoup plus que ça. Enfin, je veux dire... ça permet de justifier les déviances qui s'installent dans nos propres sociétés. Et de montrer que si l'Église devient conciliante sur le sujet, ou amende, enfin joue le jeu de la victimisation qui est en cours, eh bien tout est permis après par derrière, quoi. Donc là, je pense qu'il y a une vraie crise de, alors, ce qu'on appelle dans le monde économique, une crise de réputation, mais moi j'irais même plus loin que ça, c'est une crise éthique qui touche au plus profond de nos sociétés. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le pape en la matière, puisque il reste quand même assez serein, il ne joue pas l'emballement, il essaye de se mettre au-dessus des partis. Alors c'est vrai qu'au départ de cette crise, il a toujours eu un temps de retard. Enfin, le Vatican a toujours eu un temps de retard. C'est pas facile, parce que la moindre déclaration, la moindre attitude est immédiatement disséquée et instrumentalisée. Je pense qu'ils sont partis pour une crise longue, en termes de communication, en termes de posture et autres. Mais que là, c'est vraiment le type de situation où il faut être capable de résister sur le fond. Faut plus avoir peur aujourd'hui de déplaire ou de résister face à un certain nombre de dérives de ce type-là.
8h moins le quart, ne plus avoir peur de déplaire, la parole de Dieu tout de suite. Avec le père Frédéric Roder.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre sans passer par la porte est un voleur et un bandit. Cet évangile nous montre Jésus comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous voudrions bien tous trouver Dieu par nous-mêmes, avoir prise sur lui, en faire quelqu'un que nous pourrions cerner et enfermer dans nos manières de penser. Nous voudrions le connaître et en faire le tour par nos propres forces, avoir une idée claire et précise de lui. Nous voudrions avoir avec lui un contact immédiat. que nous puissions tout de suite l'approcher. Qui n'a jamais dit ou entendu « J'ai ma propre relation à Dieu. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de médiation, surtout pas de l'Église qui apparaît comme un obstacle encombrant. » Et pourtant, Dieu ne se donne jamais immédiatement à nous. Il a voulu des intermédiaires, des médiations, et tout spécialement son Fils, le Christ, unique médiateur avec le Père, qui se donne à nous totalement et pleinement par son Église, dans son Église. Par elle, il veut nous appeler tous par notre nom. Par elle, il veut nous mettre en contact avec le Père. Par elle, il guide et conduit son peuple. Pour elle, il donne sa propre vie pour qu'elle soit porteuse de vie divine. Alors, soyons attentifs à écouter sa voix et à le suivre, à nous laisser conduire vers la vie éternelle. Et cela passe par un chemin de liberté intérieure qu'il veut nous donner en passant par lui, par l'Église, pour que nous ayons la vie. Tout au long de cette journée, demandons au Seigneur d'accepter la vie comme chemin. Amen.
L'Évangile et son commentaire avec le Père Frédéric Roder, curé de Saint-Georges de la Villette à Paris dans le 19e.
Radio Notre-Dame, Aymeric Pourbet.
En compagnie ce matin de Xavier Guillou, consultant en gestion de crise et prévention des risques, la fin du risque zéro, c'était le titre de votre ouvrage que vous écriviez déjà en 2002. On n'en est pas encore sorti de ce risque zéro.
Ah non, on est en plein dedans, je dirais. On est pour tout le monde aujourd'hui. Pour tout le monde, je dirais aussi bien les gens de la société civile que les décideurs. Ou même nos administrations, il n'est plus question d'accepter le moindre risque, quoi. Donc, il y a une aversion au risque qui a été développée au fur et à mesure des décennies. Alors, tout ça est...
Comment est-ce que vous l'analysez, justement?
Oui, je dirais tout ça est un peu le fruit d'une longue évolution. Hein. Nos sociétés sont rentrées dans un principe de massification. Hein. On a eu, au cours du XXe siècle, un doublement de la population mondiale. Donc, il a fallu maîtriser toute cette complexité unique un petit peu dans l'histoire humaine. Donc on a développé la production de masse, la consommation de masse, la destruction de masse, la communication de masse, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et il a fallu progressivement maîtriser la complexité liée à cette massification. Une massification qui s'est essentiellement concrétisée par une urbanisation de plus en plus effrénée. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a 40% de la population mondiale qui est urbanisée, 90% dans nos sociétés occidentales. On va vers 60% de la population mondiale urbanisée à horizon 2030. Donc, ce sont plus des petites villes, ce sont des mégalopoles partout, enfin, avec des niveaux de complexité, d'interactivité, de dépendance, etc., qui sont tels qu'aujourd'hui, chaque individu, voire les collectifs, que sont par exemple les grands réseaux vitaux et autres, ont passé la main à des systèmes experts pour pouvoir gérer les dysfonctionnements, les occurrences de risque que nous pouvons avoir dans nos sociétés. Donc l'individu n'est plus rien et le collectif a pris le dessus. Et pour que le collectif fonctionne et ait un petit peu de sens, tout est concédé aux experts qui permettent de pouvoir assurer, voire réassurer le système sur le plan collectif.
Mais est-ce que ça ne pose pas aussi, Xavier Guillou, une question aujourd'hui, c'est qui est capable de prendre en compte de manière la plus juste possible le réel? Parce qu'effectivement, ça s'est complexifié.
C'est le vrai problème. En fait, le pouvoir a progressivement échappé aux usagers ou à la population. Il échappe même aux décideurs aujourd'hui, qui sont obligés de remettre une grande partie de leur prise de décision entre les mains de systèmes experts. Les systèmes experts ont... pour pouvoir à la fois développer leur propre dimension et leur propre pouvoir, ont enfermé progressivement, je dirais, leur expertise dans des modélisations qui sont de plus en plus mathématiques et qui se sont éloignées du réel. Moi, je vois très bien dans les crises que j'accompagne sur le terrain aujourd'hui tout ce qui remonte du terrain est de moins en moins pris en compte. est de moins en moins pris en compte. Alors on peut avoir de temps à autre des situations un petit peu d'exception, où on a des hommes qui sortent du lot et qui arrivent à faire à sauver des populations ou à sauver des situations parce que ils ont réussi à s'imposer dans le paysage. Mais la règle des 80-20 aujourd'hui, elle est à 80% dans l'expertise et à 20% sur le terrain. Et ça c'est très très mauvais parce que on arrive à des situations où une situation d'autoblocage que je vous évoquais tout à l'heure, ou à des situations aberrantes comme celle qu'on a connue avec la grippe A, qui je crois est le summum de ce que l'on peut développer, si vous voulez, comme comme contre-performance en matière de gestion des risques et des crises.
Alors pour illustrer ce que vous dites, effectivement, on pourra se reporter également au magazine Marianne hein, de cette semaine, qui revient justement sur cette fameuse dictature des experts, avions, Xynthia, grippe A, climat, etc. Et notamment sur cette dernière crise liée au nuage, voici ce qu'écrit l'hebdomadaire. En clair, les gouvernements européens se sont laissés dicter leur conduite par la poignée d'experts du VAC. Le VAC, c'est le système d'analyse des volcans basé à Londres, sans contre-expertise pratique. Le système a produit une machine infernale, décrit un ancien pilote d'avion, Jean-Pierre Otelli. Aucun gouvernement n'a pris sur lui d'envoyer un avion test, de peur d'être le premier à prendre une décision risquée, paralysée par une station météo qui donne ses informations.
C'est quand même fou quand on en arrive là. Mais quand vous regardez bien, vous avez ça avec vous avez ce constat qu'on peut faire avec le nuage de cendres. Mais vous avez eu ce qui s'est passé avec l'OMS et les systèmes de veille sanitaire. Vous avez ce que l'on a eu, par exemple, avec un certain nombre de crises sociales, enfin, où là aussi, un certain nombre de systèmes d'experts ont dit, mais non, il se passera rien, vous inquiétez pas, regardez dans les entreprises, tout est sous contrôle, etc. Regardez ce qui s'est passé sur le plan financier avec les agences de notation. On a attendu quand même 18 mois pour se rendre compte qu'on était sur quelque chose de monstrueux avec
l'impression qu'il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion, si je puis prendre une comparaison.
Non, je pense qu'il y a beaucoup d'experts dans la cabine, mais peu, il y a pas, mais on laisse plus le pilote rentrer. Donc c'est ça le problème. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on rentre en situation, je dirais, de crise, c'est pas tellement le contenu en tant que tel qui pose problème, c'est le pilotage.
C'est le pilotage.
C'est la crise de la gouvernance, ouais. Et c'est parce que les contenus, on a largement de quoi faire pour les traiter. Enfin, je veux dire, par exemple, l'affaire de la grippe A, on a aujourd'hui, alors je vais pas aller contre les systèmes experts parce qu'on a mis du temps à faire émerger un certain nombre de dispositifs pour justement mieux maîtriser les risques, pour sécuriser.
Parce qu'au départ, il y a quand même de vraies craintes et puis il y a eu des affaires.
Oui. Enfin, on va pas mettre
la vache folle.
On met pas des gens dans des avions sans assurer un minimum de sécurité en vol, au sol, etc. Donc on a mis des années pour construire des processus de sécurité, de sécurisation qui font qu'aujourd'hui c'est quasiment un des moyens de transport les plus sûrs. Mais de là à passer, si vous voulez, de logiques prudentielles qui permettent de pouvoir sécuriser nos logiques de vie, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont quand même très complexes, ce principe de précaution où dès qu'il y a le moindre dysfonctionnement, on empêche tout le monde de bouger, de faire quoi que ce soit, etc. Et où on nous entraîne quasiment dans des logiques qui sont beaucoup plus mortifères que des logiques de vie, bon, il faut savoir s'arrêter. Le problème du principe de précaution, je vais pas rentrer dans le débat. Oui, mais je vais pas rentrer dans le débat juridique parce que je crois que l'heure ne se prête pas à ce genre de sujet. Mais il y a quelque chose qui est inscrit à l'intérieur. C'est que quand on est face à une incertitude, il faut essayer d'évaluer la proportionnalité de la posture. Et c'est ce problème de cette question de proportionnalité qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre aujourd'hui.
On va y revenir dans un instant avec vous, Xavier Guillou, juste après 8h.
Radio Notre-Dame, le grand témoin. L'éducation, c'est une priorité et c'est l'affaire de tous. Pour réconcilier parents, profs et éducateurs, Bénédicte Chéron vous emmène à Bonne École. Une école où vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour faire grandir vos enfants. À Bonne École, c'est tous les mercredis à 10h.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Radio Notre-Dame vous invite à suivre en direct les grandes célébrations dominicales. À 16h, retrouvez l'office de vêpres depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et à 18h30, la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le Seigneur soit
en union de prière avec des milliers de fidèles, les grandes célébrations du dimanche à 16h et 18h30 sur Radio Notre-Dame.
Parce que la musique ouvre les portes de l'âme, le Père Claude Olivier nous mène à la baguette et nous emmène chaque jour dans un voyage intérieur pour explorer avec lui les trésors de la musique sacrée et leur beauté. Les grandes heures de la musique sacrée, tous les jours à 14h30, du lundi au vendredi.
À bientôt, si vous le voulez bien.
L'agenda musical, une émission d'Edith Walter, chaque vendredi à 16h et le dimanche à 14h30.
Vous vous questionnez sur votre foi ? Vous voulez mieux comprendre l'Église ? Vous avez des doutes ? Sacrement, liturgie, écriture sainte ? Chaque semaine, avec un spécialiste, découvrez le sens des signes essentiels de la foi chrétienne. À quoi ça sert l'Église ? Des repères pour aller plus loin.
À quoi ça sert l'Église ? Tous les mercredis à 10h.
Diapason, le magazine numéro 1 de la musique classique vient de paraître. Ce mois-ci dans Diapason, une interview du maître de la viole de gambe, Jordi Savall. À lire également dans Diapason, un grand hommage à Olivier Greff, génie de la musique du XXe siècle, disparu il y a tout juste 10 ans. Et avec votre magazine, un CD exceptionnel. Glenn Gould joue Bach en concert à Salzbourg. Disque, opéra, concert, matériel IFI, toute l'actualité et toute l'émotion de la musique classique sont dans Diapason.
Pour nous écouter en direct,
pour réécouter ou télécharger vos émissions préférées,
pour réagir,
rendez-vous sur notre site internet www.radionotredame.com.
Radio Notre-Dame, les matinales.
Est-ce que le beau temps s'installe, Julien ?
Eh bien oui, le printemps est là, on commence la semaine sous le soleil. Il fera de 11 à 19 degrés en Ile-de-France et ça va encore se réchauffer. Demain, le thermomètre ira jusqu'à une vingtaine de degrés.
Voilà, des bonnes nouvelles. Et puis dans un instant, nous serons à nouveau avec Xavier Guillou, donc consultant en gestion de crise, praticien des situations difficiles. Avec lui, nous faisons les bilans des grandes crises récentes. H1N1, Xynthia, nuages volcaniques. Pour l'heure, il est très précisément 8h et c'est l'heure des infos avec vous, Julien.
Et on commence avec l'embarras du ministère britannique des Affaires étrangères. L'affaire du mémo d'un employé du Foreign Office qui conseillait au pape de lancer sa propre marque de préservatif est close. Le Vatican a tourné la page hier, selon le porte-parole du Vatican. Le Sunday Telegraph a publié un document interne écrit par un employé dans lequel il recommandait également à Benoît XVI de bénir un mariage homosexuel et d'ouvrir une clinique pratiquant des avortements. Le ministère britannique des Affaires étrangères a présenté ses excuses. Cet incident n'aura absolument aucun impact sur la visite du pape en septembre prochain en Grande-Bretagne, selon le père Lombardi. Benoît XVI qui remercie et encourage les membres d'une association italienne de lutte contre la pédophilie. Le Saint-Père leur a rendu hommage après la messe dominicale hier à l'occasion de la journée nationale du souvenir des enfants victimes de pédophilie en Italie. L'association Mater, c'est son nom, a été créée il y a 14 ans par un prêtre sicilien. Benoît XVI qui a accepté la semaine dernière la démission de deux évêques impliqués dans des affaires de pédophilie. Éric Besson reste prudent sur le cas de l'homme soupçonné de polygamie. Le ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale a été chargé par son collègue de l'Intérieur de déchoir de la nationalité française un homme soupçonné de polygamie et de fraude aux allocations familiales. Il est en fait le conjoint d'une jeune femme verbalisée au début du mois à Nantes pour conduite en niqab. Éric Besson attend une éventuelle condamnation de l'homme pour agir. Il ne sont plus que 1000 Français à attendre leur avion de retour. Dernier voyageur bloqué par l'éruption du volcan islandais. 150 000 personnes ont été rapatriées en moins d'une semaine selon le Quai d'Orsay. Une nouvelle réunion sur l'impact économique de ce nuage de cendres est prévue cet après-midi entre le secrétaire d'État au tourisme, les tours opérateurs et les compagnies aériennes. Les sinistrés en colère de la tempête Xynthia n'abandonnent pas. Plus de 600 personnes ont manifesté hier à la Faulte-sur-Mer et à l'Aiguillon-sur-Mer pour protester contre les zones noires. Et 1500 maisons en Vendée et en Charente-Maritime sont appelées à être démolies. L'Allemagne n'est pas prête à faire un chèque en blanc à la Grèce, avertissement du ministre allemand aux Affaires étrangères. Alors qu'au même moment, le Fonds monétaire international et la Grèce veulent aller vite sur un plan d'aide. Berlin traîne des pieds depuis le début et pose une condition maintenant. Athènes doit mettre en œuvre une politique de rigueur stricte, une position à laquelle la France s'est ralliée hier lors d'une réunion à Washington. Les combats continuent entre l'armée du Sud-Soudan et des nomades arabes du Darfour. Au moins 55 personnes sont mortes ce week-end dans un secteur à la frontière de ces deux régions sensibles. Selon des témoignages, les nomades arabes étaient en quête de pâturage et d'eau pour leur bétail près du Darfour lorsqu'une escarmouche a éclaté avec les soldats sudistes. On finit avec du football et la 34e journée de Ligue 1. Marseille ne lâche rien. L'OM reste leader après sa victoire 1-0 face à Saint-Étienne et garde 5 points d'avance sur son dauphin Auxerre, vainqueur à Toulouse 3-0.
Radio Notre-Dame, le grand témoin.
Avec nous pour commenter l'actualité, Xavier Guillou, notre grand témoin, consultant en gestion de crise et prévention des risques. La fin du risque zéro, c'était en 2002. Et puis votre dernier ouvrage, Quand la France réagira, aux éditions Erol. Alors, nous évoquons bien sûr les grandes crises qui ont marqué ces dernières années, peut-être particulièrement notre pays, mais aussi l'ensemble du système international, la grippe A, Xynthia, le volcan islandais, et puis ce week-end encore, la crise grecque avec cette une de la tribune, Grèce, la peur d'une contagion mondiale, le FMI à la manœuvre, le FMI et l'Union Européenne, pour essayer de venir en aide à la Grèce avec cet éditorial toujours dans la tribune. En un week-end, la crise grecque a changé de dimension pour devenir systémique, comme disent les financiers, car si la Grèce tombe, tous les dirigeants de la planète seront fondés à se dire qui sera le prochain à être attaqué par les marchés. Vous souscrivez à cette analyse, Xavier Guillaume ?
Complètement. Alors là, on est vraiment dans l'étude de cas qui est intéressante, puisque l'affaire grecque, tout le monde est en train de s'agiter là, mais l'affaire grecque était quand même dans les tuyaux depuis quelque temps. Enfin, je veux dire, on change de seuil hein, par rapport à l'affaire du nuage de cendres volcanique. Enfin, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, enfin, les conséquences du nuage volcanique sont à peu près de l'ordre de 1,5 milliards d'euros, tels que les compagnies aériennes l'évaluent. On peut imaginer un seuil de 10 milliards globalement pour l'ensemble des effets collatéraux sur l'ensemble de la vie économique et autres. C'est rien par rapport à la crise grecque qui est en train d'émerger, puisque là on est sur des montants qui sont de l'ordre de 45 milliards d'euros. Ça, ce sont les chiffres officiels. Mais comme tout le monde sait que par derrière, les chiffres qui ont conduit aux évaluations sont faux, parce que personne ne veut inquiéter si vous voulez, les marchés financiers qui sont suffisamment agités comme ça. On peut estimer que cette crise va nous coûter grosso modo entre 60 à 70 milliards d'euros. Ce qui n'est rien par rapport à une autre crise qui est sous-jacente aujourd'hui, dont personne ne parle, qui est beaucoup plus importante, qui est cette grande bataille qui se joue sur le Pacifique entre le dollar et le yuan, qui justifie quelque part la crise grecque en effet indirect.
Entre les Américains et les Chinois.
Les Américains et les Chinois. On estime que, par exemple, la pression que les Américains mettent sur les Chinois aujourd'hui pour réévaluer le renminbi, enfin le yuan chinois, coûterait à la Chine quelque chose comme 2500 milliards de dollars. Donc je pense que vous voyez les enjeux sur lesquels l'ensemble de la planète se situe sur le plan financier aujourd'hui. Et ces 2500 milliards de dollars, c'est à peu près grosso modo ce qu'il faut aux Américains pour pouvoir tenir leur bazar, quoi. Parce que, les ingrédients de la stabilisation du système économique américain ne peut se faire que s'il y a une sorte de réinjection de liquidité, ce que les Chinois ne veulent pas faire pour l'instant, etc. Donc pour pouvoir remettre en lice le dollar comme monnaie de référence, et Obama ne cesse depuis quelques mois de dire au monde qu'il est la référence, qu'il est, regardez à Haïti par exemple, la gesticulation qu'il a faite sur le plan à la fois militaire et militaire, regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Oui, il n'y a que des effets de manche en permanence pour bien montrer que l'Amérique tient l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage du système international. Les Chinois sont pas enclins aujourd'hui à lâcher et à répondre aux jeux de poker américains. Et donc, de l'autre côté, il faut pouvoir s'ajuster quelque part sur un maillon faible, et le maillon faible, c'est l'Europe. Et dans ce maillon faible, on va jouer sur cette incidence monétaire dont tout le monde avait pressenti le risque à un moment ou à un autre. Et c'est parti. Goldman Sachs a été l'acteur qui a enclenché ce processus qui permet de pouvoir tenir d'une autre manière le dollar, etc. Donc c'est des jeux assez compliqués sur le plan international.
Ce que vous êtes en train de nous dire finalement, Xavier Guillou, c'est que la crise grecque n'est qu'un des effets collatéraux de cette partie de poker entre les Chinois et les Américains.
C'est la suite de ce qui se joue depuis déjà 2 ans et demi. Qui a commencé avec ce qu'on appelle les subprimes. Les subprimes, c'est pas une crise immobilière, c'est une crise de la titrisation, c'est une crise de une économie du hors-bilan que nous avons développée en Occident depuis des décennies, déconnectée du réel, qui a commencé par impacter d'abord le monde financier, puis le monde bancaire, et puis comme on a pratiqué la patate chaude, hein, on a transféré le problème aux États, les États l'ont transféré aux logiques d'endettement et maintenant bah, on est devant le mur avec des effets de ciseaux qui sont en train de se mettre en place entre les crises d'endettement des pays et les crises monétaires qui sont en train d'émerger. Et donc on est avec ce rendez-vous là et comme le maillon faible de l'ensemble du système occidental c'est l'Europe parce que l'Europe n'a jamais réussi à se fédérer et à se coaliser correctement, eh bien, on est devant son rendez-vous, avec dans ce rendez-vous une Allemagne qui est très consciente des risques imminents, c'est-à-dire que si on donne aux Grecs une certaine latitude dans ce jeu-là, demain matin, on a les Portugais qui arrivent, après, nous avons les Espagnols qui ne manqueront pas de frapper à la porte. Les Anglais sont pas mieux lotis, et en plus ça, on est avec une échéance électorale non négligeable. Et quant aux Français qui font la morale à tout le monde, j'ai encore écouté le discours de Mme Lagarde sur les Grecs, je crois que nous pourrions faire preuve d'humilité, parce que notre situation à nous n'est pas forcément parmi les plus brillantes que je connaisse à l'heure actuelle, enfin, vu le glissement de notre dette, notre déficit public et nos pratiques en matière étatique. Mais il est clair que l'ensemble de l'Europe se situe dans un niveau aujourd'hui de prise de risque majeur.
Alors je voudrais justement à propos de l'Europe vous faire réagir également sur cette opinion exprimée dans le Figaro de ce jour par Nicolas Bavrez, donc l'économiste, qui met en garde le vieux continent, l'Europe, contre les dangers qui le guettent et en l'invitant aussi à un sursaut salvateur. Voici ce qu'il écrit, l'Europe est mal partie dans le siècle, c'est le titre de cette opinion. Les formes artistiques, les modes, les innovations politiques sont aujourd'hui aux États-Unis, dans le monde émergent où la Chine, l'Inde et le Brésil sont désormais imités. L'Europe, elle, n'a plus de projet ou d'ambition autre que de se protéger d'un monde qui lui échappe, communiant dans le malthusianisme qui accompagne son déclin.
Oui.
Alors évidemment, c'est un petit peu schématique, mais en même temps...
Non, alors certains diront que Nicolas Bavrez est pessimiste, moi je dirais qu'il est lucide, comme beaucoup le sont. Vous savez, au contact des crises, l'une des principales pathologies que je relève, c'est le déni de réalité. Hein. En l'occurrence, aujourd'hui, il faudrait arrêter de faire du déni de réalité, arrêter de dire à un certain nombre d'observateurs qui font ce travail, cet exercice de lucidité, bon, bah, vous nous enquiquinez avec votre pessimisme ambiant, etc. Non, je suis désolé. L'Europe est aujourd'hui, en effet, en retard de plusieurs guerres. L'Europe s'est enfermée dans un certain passéisme, dans une certaine nostalgie d'un monde qui n'est plus d'actualité. Ce qui est en train de se jouer du côté du Pacifique et de l'océan Indien, moi ça fait depuis des années, voire des décennies que je le dis, est extrêmement important. Va changer les règles assez rapidement. Tout se passe à une très très grande vitesse à l'heure actuelle. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis le 1er janvier, la Chine a annoncé au monde entier que maintenant elle était la deuxième puissance en termes de commerce extérieur, qu'elle avait le deuxième PIB au monde. Il y a eu une réunion qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps, l'ensemble des BRICS, ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine, contribue à plus de 55% de la croissance mondiale à l'heure actuelle. On a des bascules qui sont en train de se faire. Avec un certain nombre de jeux d'acteurs qui n'ont pas forcément envie d'épouser notre aversion au risque. Au contraire, eux prennent des risques. Ils vont pas attendre d'avoir 100% de l'information validée, certifiée, et de bien répondre, que tout ça réponde bien à des normes assurantielles ou réassurantielles pour prendre des décisions. Non, ils prennent des décisions en s'exposant un maximum et en faisant bouger les lignes. Bon, et c'est là où est le plus grand risque pour l'Europe, c'est de s'enfermer dans une bunkérisation non pas simplement administrative et autres, mais mentale, qui nous empêche d'aller sur ces lignes d'horizon, sur ces rives du 21e siècle qui sont en train de se redessiner.
8h12, d'une crise à l'autre, nous rejoignons à l'instant Gérard Leclerc, chaque matin avec son éditorial. Gérard Leclerc qui revient ce matin donc sur les attaques contre le sacerdoce donc liées à la crise au sein de l'Église. Bonjour Gérard.
Bonjour Émeric. En cette année que l'Église consacre au sacerdoce et au lendemain de la journée pour les vocations, je me vois encore obligé de prendre la défense des prêtres qui sont l'objet dans les médias d'attaques inadmissibles. Je citerai par exemple le dernier éditorial de l'Express, signé Christian Barbier, qui m'a soulevé le cœur de dégoût. L'actualité n'excuse pas tout, d'autant que la façon sélective dont sont présentés certains faits constitue une des plus étonnantes impostures de l'époque. Je résume. On veut nous asséner que l'Église catholique serait une structure perverse, accueillante aux pédophiles qu'au surplus le pape protégerait. J'affirme qu'une telle rumeur diffusée constamment est une ignominie. S'il y a un scandale de la pédophilie aujourd'hui, il n'est pas dans l'Église. Les chiffres l'attestent, notamment aux États-Unis. Et si l'on veut éradiquer ce fléau, c'est ailleurs qu'il faut agir, notamment dans les milieux des ONG et de l'aide internationale, où il a pris malheureusement des proportions effrayantes. Mais pour en revenir au clergé catholique, dont il nous faut défendre l'honneur, parce qu'il est exemplaire en abnégation, dévouement, et parce que la façon dont un Christian Barbier le stigmatise comme un bas clergé est insupportable. Qu'est-ce qui autorise un journal qui n'a aucune compétence dans le domaine théologique et aucun engagement ecclésial à régenter, à prétendre régenter la vie de l'Église en sommant celle-ci, par exemple, d'abolir le célibat sacerdotal? Il y a quelques semaines, c'était l'éditorial du Monde qui, de façon péremptoire, affirmait que ce même célibat était un anachronisme. Ce qui, entre parenthèses, est une affirmation bien sotte. Le célibat a toujours constitué une ascèse que seul l'engagement total pour le royaume justifiait. Il était aussi difficile à admettre aux origines du christianisme qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance ou à notre époque. Je ne vois vraiment pas en quoi, de ce point de vue, la nature humaine aurait changé. De plus, comment est-il possible de faire la leçon au pape et à l'Église en écrivant, comme Christian Barbier, que cette même Église doit en finir avec le célibat, parce qu'une religion fondée sur l'amour, pour qu'une religion fondée sur l'amour puisse en interdire à ses ministres la forme la plus élémentaire est un tenable. Voilà un genre d'affirmation dont Léon Blois aurait dit qu'elles font hennir les constellations par leur sottise satisfaite et l'incroyable ignorance qu'elles manifestent. Non, monsieur Barbier, le célibat sacerdotal n'est pas un déni de l'amour, c'en est au contraire la plus haute expression. Qui n'a pas compris cela à l'école de l'Évangile et de nos plus grands saints demeure étranger à ce que Chateaubriand appelait le génie du christianisme. Mais prenons garde, l'actuelle offensive contre l'Église et les prêtres relève d'un totalitarisme sournois, celui qu'Éric Nolot relevait samedi soir à l'encontre d'une Caroline Fourès qui entend elle aussi exercer une police orwellienne de la pensée avec cette extraordinaire prétention d'organiser l'Église à laquelle on est étranger selon les canons de sa propre idéologie. Prenons-y garde, c'est notre liberté la plus profonde, la liberté religieuse, la liberté spirituelle, la liberté de conviction qui est mise en péril.
Merci Gérard. Votre réponse donc à l'éditorial de Christophe Barbier dans l'Express de cette fin de semaine dernière. Alors finalement, Xavier Guillou, ce qu'on peut peut-être analyser à travers ces différentes crises, c'est la place prise par les médias. Est-ce qu'ils sont instrumentalisés? Est-ce qu'ils sont devenus finalement les nouveaux experts aussi? Parce que c'est un peu ce qu'on peut lire dans Marianne, dans l'article dont je parlais tout à l'heure, la dictature des experts. Aujourd'hui, les médias, dans leurs travaux, on peut se demander s'ils n'exercent pas leur dictature alors que de nouveaux experts autodésignés supplantent les vrais experts jugés défaillants.
Oui, mais est-ce que ce sont les médias qui deviennent experts ou est-ce que ce sont les experts qui savent utiliser les médias? Écoutez, c'est pas parce que je suis sur une radio, mais le discours sur les médias est un discours facile. Les médias a toujours existé, hein, la médiation a toujours existé, hein, quelle qu'en soit sa nature. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des vecteurs multimédiatiques qui sont extrêmement puissants, hein, qui permettent cette communication de masse qui passe aussi bien par les radios et les télévisions, mais surtout par Internet. Hein. Aujourd'hui, on a des outils quand même extrêmement performants. Et la nature des médias, c'est de faire de l'audience. Hein. C'est pas forcément d'être pertinent sur les contenus. Hein. C'est une bataille d'audience. Donc, derrière, vous en avez parfaitement compris comment utiliser ces vecteurs et qui savent les instrumentaliser. Rien n'interdit à un média d'organiser de la controverse, d'alimenter un débat démocratique et de contribuer, si vous voulez, à faire émerger la vraisemblance ou la vérité. Donc, de ce côté-là, je ne chargerai pas forcément les médias comme étant le diable en tant que tel, quoi. Hein, c'est facile. Non, je pense que la perversité est beaucoup plus dans la façon de
l'instrumentalisation,
de l'utiliser. Et là, par exemple, bon, ce qu'on évoque, ce que Monsieur Leclerc évoquait là sur les rumeurs en cours, je trouve ça extrêmement intéressant parce que à la différence d'un Jean-Paul II qui a été confronté à une crise très dure, hein, qui était celle de la confrontation avec le communisme, le monde soviétique, etc., et où les paramètres étaient assez clairs. Donc je dirais, la bataille se jouait sur une certaine tangibilité. Hein,
l'ennemi était clairement désigné.
L'ennemi était clairement désigné, enfin, les objectifs étaient clairs. Là, on est sur une espèce de crise molle, où on va jouer sur la rumeur, on va dénaturer en permanence, si vous voulez, ce qui fait les fondamentaux du fonctionnement de l'Église catholique. Et donc on va jouer notamment sur un de ces fondamentaux qui est à la base de la foi que les chrétiens et les catholiques notamment peuvent développer autour d'eux, enfin dans leur rayonnement, dans leur croyance, etc., qui est l'amour. Voilà. Et on joue là-dessus, et on dénature la notion d'amour. Progressivement, on crée le doute dans l'esprit des gens sur ce qu'est véritablement sa propre foi par rapport à l'institution, par rapport à l'Ecclésia, par rapport à l'ensemble de cette famille chrétienne. Et puis, on fragilise l'ensemble du dispositif comme ça. Alors moi, j'ai vécu ça dans ma crise. J'ai vécu ça dans les crises sociales, par exemple. Hein, quand j'ai eu à accompagner toute la crise, par exemple, qui s'est passée dans les Antilles l'année dernière, exactement le même processus. Hein, on va dénaturer progressivement tous les ingrédients de ce qui fait le vivre ensemble.
Mais qui est ce « on » ?
Alors, ben, ce sont des... là, en l'occurrence, par exemple, sur la crise des Antilles, c'était des mouvements qui étaient liés au NPA, à l'ultra-gauche, etc. Je ne suis pas forcément sûr qu'on n'est pas les mêmes cette crise de réputation pour l'Église que nous traversons aujourd'hui, cette crise éthique que nous traversons.
Charles Leclerc, peut-être une réaction là-dessus ? Est-ce que vous voyez une intention délibérée derrière ces attaques ?
Ah oui, parce que il y a le fonctionnement des médias et puis il y a quand même des gens qui veulent régler leur compte avec le christianisme. Ouais. Il y a quand même des idéologues là-dedans qui poursuivent un dessein qui me paraît avéré. Hein.
Oui, c'est clair. Et je dirais c'est là où la notion de déni de réalité est important hein, quand on rentre dans ce traitement des crises. Et à partir du moment où on ne fait plus, on n'est plus dans le déni de réalité, on est dans cette approche en termes de lucidité des événements, et qu'on les analyse avec une certaine sérénité, bah, après il se pose le problème de la posture. On fait quoi ? On admet, on baisse les bras ou on résiste quoi. Et à ce moment-là, on
vous optez pour la troisième option ?
Oui, moi j'ai jamais baissé les bras. Donc et j'ai connu d'autres situations. Hein, j'ai connu l'époque avec Jean-Paul II, la résistance en Pologne, etc. J'ai connu maintes pays qui se sont trouvés dans des situations, je dirais, où il a fallu organiser la bascule. Hein. Bon. Là, il faut vraiment résister par rapport
mais
à la rumeur.
Mais est-ce que Benoît XVI semble être l'homme de la situation ?
Ben, je pense que, autant Jean-Paul II était fait pour des crises dures, hein, comme celles qu'on a pu connaître dans les années 70-80, autant Benoît XVI est assez bon pour pouvoir tenir ce que j'appelle cette crise molle, c'est-à-dire une espèce de crise où tout se situe, vous savez, en dessous du seuil de tolérance, où finalement on n'a pas suffisamment d'événements ou d'éléments assez clairs pour pouvoir mettre sous tension l'ensemble d'une communauté, d'un pays ou d'une organisation pour se mettre en résistance. Et Benoît XVI a cette puissance en termes de caractère, d'âme, de réflexion, de vision, pour pouvoir s'installer, je dirais, durablement dans la tenue de cette crise. Et progressivement, donner des réponses, soit par la gouvernance interne, soit par des messages à l'ensemble du monde chrétien. Là où je suis inquiet, c'est par rapport à cette notion de résilience hein, des communautés face aux crises. Et la communauté chrétienne, je la trouve aujourd'hui assez faible en termes de résilience par rapport à ça. Je vois beaucoup de mes amis autour de moi qui doutent, qui se disent, bah oui, finalement, l'Église catholique, ceci, cela, etc. Et ils s'interdisent d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Mais pourquoi on en veut à l'Église catholique comme ça? Quel est l'objectif final? De quoi s'agit-il finalement? De quoi s'agit-il? Où est l'enjeu de cette affaire-là? Où sont les pièges pour la collectivité, pour l'ensemble de la communauté catholique? Et puis, c'est quoi le jeu d'acteur qu'il y a derrière? Enfin, c'est ces grandes questions qu'il faut toujours se poser quand on est face à des crises un petit peu hors cadre, qui sont comme disent les Américains, out of the book, hein, où il faut
réfléchir autrement,
où il faut penser autrement, et où il faut pas avoir peur de poser des questions qui sont des questions qui fâchent ou des questions qui sont pas forcément agréables à poser. Et je trouve que l'ensemble de la communauté catholique est trop indolente ou trop faible par rapport à ça. Et c'est facile pour les autres, du coup, de développer ce type de rumeur, ce type de...
Mais qu'est-ce que vous attendriez d'elle, par exemple, comme réaction, comme type de réaction?
Ben, qu'elle soit un peu plus, je dirais qu'elle soit un peu plus claire sur ce qu'est la notion d'amour. Parce qu'en fait, il y a énormément d'ambiguïté autour de cette notion d'amour. Oui, plus affirmative. Plus affirmative. La notion d'amour, elle touche aussi bien l'amour filial, l'amour familial, l'amour d'un couple. Enfin, je veux dire et même ce que l'on peut générer dans une vie comme acte d'amour vis-à-vis des autres. Enfin, je veux dire dans ses actes quotidiens, dans son travail, etc. Et là, je trouve que on est trop faible. Et moyennant quoi, ça impacte quelque part cette notion de foi. Parce que finalement, la foi, c'est quoi? C'est la somme de tous ces actes d'amour que l'on donne dans différentes dimensions. Et là, on est en train d'atomiser cette notion d'amour et de remettre en cause l'autorité et la légitimité de cette foi qui caractérise, j'irais, l'âme du monde chrétien, quoi.
Gérard Leclerc, peut-être une dernière réaction là-dessus. Est-ce qu'on est face, justement, comme le dit Xavier Guillou, à une crise de sens, une crise de la vérité sur ce qu'est l'amour?
Je suis très très attentif à ce que vient de dire Monsieur Guillou, notamment à propos de l'amour. Ça me paraît d'une vérité criante ce qu'il dit, et l'éditorial de Christophe Barbier, je me suis permis d'épingler de ce point de vue-là, est un chef-d'œuvre, je dirais.
Un antimodèle.
Oui, absolument. Enfin, de dissolution même de l'amour. Ce qu'est l'amour alors? Et c'est effectivement enlever toute légitimité au christianisme à pouvoir dire ce qu'est l'amour tel qu'il s'est exprimé dans la révélation, dans l'écriture, déjà dans la Bible et dans l'évangile. Alors là, c'est un déni total.
Oui, mais vous savez, le monde chrétien aujourd'hui est de nouveau confronté à des idéologies mortifères. Et du coup, est confronté à la défense de l'essence même de ce qui fait sa force. Et je pense que les chrétiens doivent être conscients de cette bataille-là aujourd'hui. Elle est aussi essentielle pour moi que la bataille qui se joue sur le Pacifique autour du yuan et du dollar, ou ce qui peut se passer dans la tête de nos populations face à un séisme ou à un coup du sort quand on a la mer qui se déchaîne sur des habitations ou sur un littoral.
N'est-ce pas ainsi finalement dans l'histoire que le christianisme s'est défini et perpétué à travers justement des crises semblables peut-être à celle-ci en importance?
Oui, mais la crise a toujours été est toujours une opportunité. Enfin, quand une crise arrive, on se retrouve face à une page blanche. Hein, c'est tout ce qui était en amont ne fonctionne plus. On se retrouve face à une page blanche. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette aptitude, cette capacité à réécrire le script, hein, et à redimensionner, je dirais, les logiques de vie. J'aime beaucoup le film Apollo 13, et je conseille souvent aux dirigeants qui se trouvent face à une situation un petit peu hors norme de prendre le temps, avant de s'exciter dans des fausses décisions, de regarder ce film. Et il y a un passage que je trouve absolument fabuleux, c'est quand, je ne sais pas si vous vous rappelez cette aventure d'Apollo 13, deuxième voyage sur la Lune, très bien rendu dans le film avec Tom Hanks, quand Tom Hanks appelle Cap Canaveral et dit « Alors Houston, we have a problem ». Il y a un incendie qui s'est quand même déclenché dans une capsule, recul et la mission devient périlleuse, quoi. Et vous avez toute la salle de contrôle qui se déchaîne sur les écrans, les claviers, etc., en disant mais il va y avoir un problème dans le processus de conversation avec la capsule, quoi. Et vous avez le directeur des vols qui est là, qui regarde l'ensemble de la salle de contrôle et qu'à un moment donné il se met en colère et dit mais messieurs, est-ce que vous avez rien compris? Messieurs, nous n'irons plus sur la Lune. Et là, la salle est complètement liquéfiée, et ne sait plus quoi faire. Et il leur dit, maintenant, je vous demande de m'inventer
une solution.
Vous allez me faire attirer ces gens-là. Et tout le monde de dire, mais c'est pas dans le book, c'est pas dans le livre. Il dit justement, je vous demande de le réinventer. Et c'est ça qui est important dans les crises, c'est cette capacité à réinventer.
Merci Xavier Guillou, je renvoie à votre site xavierguillou.com.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Chaque jeudi à 18h30, retrouvez Face aux chrétiens, animé par Dominique Gerbault.
Face aux chrétiens.
Hommes politiques, grands patrons ou acteurs de l'Église répondent le jeudi à 18h30 aux questions de La Croix, RCF et Radio Notre-Dame. Face aux chrétiens, un magazine animé par Dominique Gerbault.
Et cette semaine, retrouvez André Gérin, il est député communiste du Rhône.
Diapason, le magazine numéro 1 de la musique classique vient de paraître. Ce mois-ci dans Diapason, une interview du maître de la viole de gambe, Jordi Savall. À lire également dans Diapason, un grand hommage à Olivier Greff, génie de la musique du XXe siècle, disparu il y a tout juste 10 ans. Et avec votre magazine, un CD exceptionnel. Glenn Gould joue Bach en concert à Salzbourg. Disque, opéra, concert, matériel IFI, toute l'actualité et toute l'émotion de la musique classique sont dans Diapason.
Chaque jeudi à 10h, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre.
Il Santo Padre, da ora inizio all'udienza generale.
Chers frères et sœurs,
pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape.
Nul n'est de trop dans l'église.
Votre père, votre mère est malade ou handicapé, quelle que soit la maladie ou le handicap de votre parent, mental, physique ou psychique, l'OCH organise à Compiègne un week-end spécialement conçu pour vous. Jeunes ou adultes, venez partager entre vous vos questions, vos difficultés et vos joies autour de grands témoins et professionnels. Inscrivez-vous au week-end OCH les 8 et 9 mai prochains au 01 53 69 44 30 ou www.och.fr.
Thank you.